Un couvre-feu prolongé avec des horaires élargis du 21 au 24 septembre. La vente d'alcool interdite à compter de lundi et jusqu'au 24 septembre également. Une situation sécuritaire encore instable. C'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le Conseil économique et social et environnemental, le CESE, a approuvé ce matin le plan de reconstruction du gouvernement et officiellement condamné les émeutes. Les enfants de l'île des Pins privés d'école aujourd'hui suite à de très fortes inondations. Pompiers et gendarmes ont dû installer des sacs de sable pour limiter les risques et les dégâts. La ligne Nouméa-Paris sera opérationnelle dès le mois de décembre sur un temps de vol de moins de 24 heures. Air Calin l'a confirmé aujourd'hui. Jacques Lucien s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. Il était le dernier vétéran calédonien des forces françaises libres de la Seconde Guerre mondiale. Des sorties nombreuses ce week-end avec demain, entre autres, le grand marché Broussard de Ducos et à Plume, au Mont d'Or, un pique-nique partagé offert par la Banque alimentaire. Et puis à la fin de ce journal, nous retrouverons notre programme des sports en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 4 mois, jour pour jour après le déclenchement des émeutes, il n'y a pas de retour à la normale, reconnaît le haut-commissaire Louis Lefranc. Il était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence et il est largement revenu, Jean-François Baudin, sur la situation du territoire.
Louis Lefranc a interrogé d'abord sur l'ordre public et il constate qu'il reste des situations difficiles. À Nouméa, dans les quartiers de la vallée du Tir et de Rivière-Salée, où des unités de déblaiement sont toujours sur place, mais aussi à Dembéa, dans les secteurs de Koutio et Pogoti, qui reste difficile avec une adversité récurrente et tenace. Le haut-commissaire note en revanche une amélioration sur la côte Est, où la situation, dit-il, est en cours de résolution en liaison avec les maires et où l'on évacue les obstacles.
Il y a pas mal de dépôts comme ça, temporaires, sur les communes de la côte ouest, où il y a de la ferraille, des carcasses de voitures, etc. Et au fur et à mesure, ou plutôt simultanément, on évacue ces zones de dépôts temporaires, de carcasses de véhicules, vers la zone de Ducos, qui appartient à la province sud, où il y a déjà des milliers de carcasses de voitures. Et aujourd'hui, on en est à 80 000 mètres cubes de bois, de ferraille. On regroupe tous les débris, toutes les carcasses de véhicules, toute la ferraille, parce qu'il va falloir s'en occuper et voir comment on traite tout cela et pour éviter d'autres problèmes de nature, atteinte à l'environnement. Donc tout est regroupé là-bas. Donc c'est une opération en cours. Donc on évacue les barrages sur les communes de la côte Est en liaison avec les maires. Il faut que les maires s'engagent et me le demandent.
L'objectif est de dégager les axes de circulation et les militaires sont à pied d'œuvre, ajoute le haut-commissaire qui déclare que cela prend du temps, mais on y arrive et nécessite beaucoup de moyens qui soient parfaitement coordonnés. Interrogé sur la situation de Saint-Louis, il affirme qu'il ne lâche rien, même si aucun de mes prédécesseurs n'a réglé le problème, a-t-il dit.
Quand je dis que nous rétablirons l'ordre à Saint-Louis, on rétablira l'ordre à Saint-Louis. Non, mais il faut me croire. Moi, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Le travail est long parce que l'adversité est très forte. On a pu le mesurer le 14 mai dernier. Un gendarme mobile âgé de 22 ans, M. Molinari, qui a été assassiné, tué d'une balle dans la tête. Un émeutier qui a été tué par un tir de riposte du GIGN le 10 juillet. Pour vous donner quelques éléments, les tirs sur les forces de l'ordre depuis le 13 mai dernier, c'est 313 tirs d'armes très puissantes, c'est des calibres importants, 7,62, 300 Winchester Magnum, voire supérieurs. Sur ces gendarmes, ce sont des carjackings dont était victime la population du Mont d'Or. On en est à 65. 34 ont été commis avec usage ou menace des armes.
Et concernant les verrous de Saint-Louis et la circulation sur la RP1, Louis Lefranc martèle qu'il est dans une logique de sécurité des personnes.
L'effet majeur que moi je recherche, il est simple, c'est rétablir la libre circulation sur la route provinciale. C'est ma priorité, mais je veux le faire en toute sécurité. Moi, je ne veux pas réouvrir cette route et exposer à un danger quelconque des automobilistes du Mont d'Or qui la prennent et qui seraient victimes de carjacking. Donc, on a engagé un travail d'investigation judiciaire qui est sous l'autorité du procureur de la République. C'est un travail minutieux. Il s'agit de repérer des individus qui, dans l'ensemble, sont tous d'anciens repris de justice, qui ont commis des homicides, faut le dire, et qui sont prêts de nouveau à en commettre d'autres. Donc, on s'occupe de tous ces individus. On le fait avec les moyens d'investigation qui sont ceux de la gendarmerie nationale et avec des équipes d'intervention qui sont celles du GIGN. Ça nécessite beaucoup de moyens.
Et dans ce contexte, le haut-commissaire appelle ces individus violents à la reddition.
Je ne vais pas dévoiler le mode d'action à ceux que les gendarmes appellent naturellement nos adversaires. Mais La détermination, c'est celle-là. Et tous ces individus seront interpellés d'une manière ou d'une autre. Le plus simple pour eux serait qu'ils se rendent.
C'est un appel que vous lancez ou qu'ils auraient lancé?
C'est un appel que je leur lance, que je lance aussi aux autorités coutumières avec lesquelles nous sommes en contact. C'est un appel que je lance à leurs parents. Parce que s'ils ne se rendent pas, là on change de posture. C'est qu'ils ne veulent pas se laisser faire. C'est qu'ils sont prêts à aller au contact. C'est qu'ils sont prêts à un affrontement avec les gendarmes du GIGN. J'ai eu beaucoup de moyens d'observation, beaucoup de moyens humains du GIGN Paris, Satori, qui sont arrivés là. Ils seront tous interpellés.
Le haut-commissaire souligne que l'on réfléchit à sécuriser durablement cette route qui traverse la tribu de Saint-Louis et il affirme que sa priorité et celle des gendarmes, c'est de rouvrir la RP1 et d'interpeller ces individus. Et il prévient qu'il dispose des moyens suffisants avec un total de 7000 hommes.
Je dispose d'un dispositif de force de l'ordre important, 27 escadrons de gendarmerie mobile, 3 compagnies CRS. J'ai demandé des renforcements qui m'ont été accordés. On va passer à 41 unités de force mobile. Ça ne s'est jamais vu. Même pendant les moments les plus durs des événements des années 84-88. On n'a jamais eu ça. C'est 3400 gendarmes mobiles, c'est 1300 policiers. Et en appui, pour la protection des points sensibles, c'est 2300 militaires. Donc faites des additions, on est à près de 7000 hommes. Ce sont des militaires qui viennent de la Légion étrangère, du régiment étranger de cavalerie, du régiment étranger d'infanterie, du 35e régiment d'infanterie de Belfort. Ça, ce ne sont pas des légionnaires, ce que les légionnaires appellent la régulière. Donc, ils peuvent imaginer toutes les stratégies qu'ils veulent. Mais avec un tel volume de force, je vous le dis, nous ferons face.
Interrogé sur la date du 24 septembre, le haut-commissaire indique qu'il ne la craint pas et il précise les dispositions qui ont été prises pour le long week-end du 20 au 24 septembre.
Bon, d'abord, je ne crains pas le 24 septembre. Vous le dire. Je vous ai donné le volume de force qui est à ma disposition pour traiter non pas seulement la date du 24 septembre, mais ce long week-end qui démarre le 21 septembre, donc samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mardi 24, donc c'est 4 jours. C'est totalement intégré. C'est aussi la raison pour laquelle, dans les arrêtés que j'étais amené à prendre, tout d'abord, un bon arrêté, c'est l'arrêté du couvre-feu que les maires partagent. Donc de 22h à 5h du matin, du lundi 16 septembre jusqu'au samedi 21, donc 5h. De 18h à 6h du matin, du samedi 21 au mardi 24, inclus 18h à 6h. C'est un petit peu pour séparer l'ivraie du bon grain. Ceux qui n'ont rien à faire la nuit, les gendarmes ou les policiers leur tombent dessus alors qu'il y a le couvre-feu.
Donc le week-end du 24 septembre, ce sera à 18h.
Voilà, ça c'est pour le couvre-feu. Ensuite, le rassemblement. Le domaine qui est visé, c'est le domaine public. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Mais je n'interdis absolument pas les manifestations d'activités sportives. Elles peuvent être autorisées. Les marchés peuvent être autorisés. Et puis tous les rassemblements qui relèvent d'usages locaux, qui ne sont pas évidemment de nature revendicative.
Et à ce titre, Louis Lefranc précise qu'il a refusé la mise à disposition de la place du Mouaka au président du Sénat coutumier. Il ajoute que la consommation et la vente d'alcool seront interdites, ainsi que le transport d'armes et de carburant sur l'ensemble du territoire à partir de ce lundi 16 septembre jusqu'au 24 septembre au soir. Interrogé sur les conséquences économiques de l'insurrection, Louis Lefranc détaille la situation et relève qu'au total, plus de 2200 entreprises sont concernées par les émeutes directement ou indirectement. Dans ces conditions, il déclare que l'État est la seule bouée de sauvetage.
Aujourd'hui, la seule bouée de sauvetage, c'est l'État. Ce n'est pas la peine de regarder ailleurs, il n'y a que l'État. D'ailleurs, à chaque fois que je me déplace aux réunions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dès qu'on parle d'argent, toutes les têtes se tournent vers le haut-commissaire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, les chômeurs. Le territoire calédonien, ça tournait autour de 2 500, 3 000 chômeurs. On est passé à 7 000. Mais emploi direct détruit du fait des destructions d'entreprises. Il faut rajouter ce qu'on appelle le chômage partiel. C'est 17 000. Donc faites des additions, 7 000 plus 17 000, 24 000. Ben, qui paye l'activité partielle? C'est l'État. Tout simplement parce que personne n'est en mesure de faire face au paiement de ce chômage partiel. Ça représente 20 milliards. Rien que pour la prolongation des mois de septembre et octobre, c'est-à-dire 160 millions d'euros pour payer ce chômage partiel.
Et à cela s'ajoutent les emplois perdus dans le secteur métallurgique. Il n'y a pas d'autre solution que l'État vienne à la rescousse, répète le haut-commissaire, qui indique que l'État a mobilisé 50 milliards de francs de mai à septembre et qu'il mobilisera un montant équivalent d'ici la fin de l'année, avant la phase de reconstruction dans laquelle, dit-il, l'État sera au rendez-vous. Au passage, il salue le plan S2R du gouvernement en soulignant que l'État a besoin de savoir quels sont les secteurs prioritaires, mais il relève que l'État n'a pas été associé à l'élaboration du plan quinquennal adopté par les élus du Congrès. Louis Lefranc reconnaît que l'aide de l'État est conditionnée à des réformes, même s'il souligne qu'évoquer le mot « réforme » est presque considéré comme une insulte. Et pourtant, dit-il, il va falloir les faire, notamment dans le domaine des dépenses.
Le problème, tel que moi je le ressens, il y a une absence de culture, de maîtrise de la dépense. Ça s'apprend. Il y a peut-être dans certains secteurs, certaines collectivités, une masse salariale qui est peut-être trop importante. Ça s'apprend. La maîtrise de la dépense. Ce n'est pas une insulte, hein. C'est pas une insulte, mais ça implique surtout une certaine volonté.
Concernant la reprise des discussions politiques, le haut-commissaire indique qu'il faut attendre la constitution du gouvernement central pour être fixée. De la même manière, ce sera au Premier ministre de décider du report ou non des élections provinciales. Interrogé enfin sur le fait que l'UC et la CCAT ont demandé sa tête, Louis Lefranc répond qu'ils ont le droit de le faire, mais il ajoute que tout ce qui est excessif est insignifiant.
Une interview du haut-commissaire qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez également la retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, trouvez-vous normal que l'instruction du dossier des responsables de la CCAT se fasse en Nouvelle-Calédonie et ne soit pas dépaysée, comme le demandaient les avocats du FLNKS? Si vous trouvez normal que le dossier reste en Nouvelle-Calédonie, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent choqués que la secrétaire générale du RDO, Laurie Oumounié, soit en charge au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des secteurs de la construction et de l'habitat. Ils ne sont que 2% à dire que cela ne les choque pas. Le Conseil économique, social et environnemental a examiné ce matin le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction proposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un plan approuvé par le CESE avec un certain nombre de recommandations. Mais les conseillers ont également adopté à l'unanimité un article qui est une condamnation claire des émeutes et des violences qui secouent le territoire depuis le 13 mai. C'est la première fois que le CESE prend position officiellement depuis le début des exactions. Marc Zessel, conseiller du CESE.
Pour la première fois, le CESE a pris position en condamnant fermement, clairement, les émeutes qui ont ravagé la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai. Avec certains de mes collègues, on était inquiets parce que jusqu'à maintenant, le CESE n'avait pas condamné ces émeutes, alors que pourtant, il est le représentant de la société civile et la société civile, elle est martyrisée. Hein, 800 entreprises détruites, 27 000 salariés au chômage, les associations qui n'ont plus de budget pour fonctionner. Donc là, le CESE, de manière unanime, et le CESE, comme vous le savez, est composé de conseillers de sensibilité indépendantiste et conseillers de sensibilité non indépendantiste. Et de manière unanime, ils ont voté ce paragraphe qui condamne les émeutes et qui stipule que aucun motif ne peut justifier la ruine de l'économie calédonienne. Et ça me semble envoyer un message, à mon sens, absolument nécessaire par rapport à tout ce que la société civile, dont le CESE est le représentant, a souffert.
Des propos recueillis par Gilles Ménage et dans sa contribution de plus de 30 pages au PS2R du gouvernement, le CESE recommande en premier lieu de concrétiser un projet institutionnel stable. L'urgence de la situation, écrivent unanimes les conseillers, nécessite un accord politique effectif dans les plus brefs délais sur l'avenir institutionnel. Il est 18h, nous marquons une première pause dans ce journal avant de retrouver la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On fera d'abord un point sur ces fortes inondations survenues à l'île des Pins. On se retrouve après une page de pub.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
La Chambre d'agriculture et de la pêche vous invite au Grand Marché Broussard organisé sous la halle de Ducosse samedi 14 septembre de 7h à 16h. Au menu du jour, des produits locaux, de la restauration, des animations et bien plus encore.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Des inondations à l'île des Pins en raison de fortes pluies depuis ce matin. En conséquence, il n'y a pas eu d'école de la journée. Le personnel scolaire a confié qu'il y avait encore beaucoup trop d'eau cet après-midi pour que les cours reprennent. Ce matin, les habitants, les pompiers et les gendarmes se sont mobilisés à l'école, mais aussi au collège de Vao et au niveau de la mairie, de la poste et de l'aérodrome de l'île des Pins. Ils ont installé des sacs de sable pour limiter les dégâts. On écoute Yannick Vaquier, le responsable des pompiers de l'aérodrome de l'île des Pins.
Inondation au niveau du village hein, par rapport à la pluie qu'il y a eu depuis ce matin. Il y a les écoles qui ont été évacuées, les élèves. Il a été évacué ce matin dès l'ouverture à 7h15. La direction a préféré évacuer, mais ils ont bien fait. Parce qu'avec ce qu'il y a maintenant, là c'est compliqué, je les habite pas du tout. Et tout partout, c'est inondé au village. Hein. Ce sont les habitations qui ont été aussi inondées, hein, chez les particuliers, tout l'ensemble du village. Hein.
Au milieu d'après-midi, de nouvelles averses sont tombées sur l'île. À noter que Météo France a placé la côte est de Touho-Yaté, les îles de Lifou et Marais en vigilance jaune, forte pluie et orage. La ligne Nouméa-Paris, opérée par Air Calin, n'est plus un projet, mais une réalité. Dès le mois de décembre, la compagnie internationale va proposer 2 rotations par semaine, avec une seule escale à Bangkok, Gilles Ménage.
Et c'est une petite révolution qui s'annonce dans les habitudes de voyage des Calédoniens, qui vont désormais pouvoir rallier Nouméa à Paris le mercredi ou le samedi, sans changer d'avion, avec seulement une escale technique de 2 heures à Bangkok. C'est d'ailleurs la route la plus courte possible et le temps de vol sera de 23h40 avec un prix d'appel en basse saison qui sera inférieur à 200 000 francs aller-retour. Cette ouverture de ligne, prévue à l'origine en 2026, a été accélérée car elle figure désormais dans le plan de sortie de crise de la compagnie, très lourdement impactée par les conséquences des émeutes. 280 salariés en chômage partiel, un nombre de passagers divisé par 2 en 2024. Le lancement de la ligne Nouméa à Paris était donc vital après les premières mesures de sauvegarde, souligne Georges Sélefen, le PDG d'Air Calin.
Les premières mesures de ce plan étaient centrées sur la maîtrise de ses coûts, avec notamment la mise en place du chômage partiel. Nous sommes aujourd'hui sur le deuxième volet avec l'annonce de cette ouverture de la ligne Nouméa à Paris via Bangkok, qui va être opéré dès le 11 décembre et qui sera commercialisé à compter du lundi 16 septembre. Ça a été un défi technique, opérationnel et commercial que les salariés de la compagnie ont su relever et permettre aux Calédoniens de pouvoir voyager de bout en bout sans rupture de charge et permettre aussi aux clients et aux Calédoniens de pouvoir découvrir la Thaïlande, Bangkok et ses pays environnants.
Une ouverture de ligne qui est aussi une bonne nouvelle économique pour la compagnie internationale car elle va permettre de récupérer la partie de la recette entre l'Asie et l'Europe.
C'est un fait marquant et historique pour la compagnie puisqu'elle, hormis les charters opérés ponctuellement sur Paris, Air Calin, sa zone et son périmètre d'action se situent sur la région et l'Asie. Aujourd'hui, aller jusqu'à Paris, on va au-delà des 40% des recettes que nous disposons aujourd'hui. Donc on va chercher les 60% qui restent pour permettre aussi à la compagnie d'améliorer sa situation économique, de maintenir ses emplois et aussi d'envisager des perspectives de croissance et de développement.
Dès le 11 décembre prochain, 2 vols par semaine seront proposés, les mercredis et samedis avec les 2 A330 Néo d'Air Calin, dont la capacité est de 291 passagers, mais la compagnie souhaite également passer à l'étape supérieure avec des A350 qui peuvent emporter 340 passagers.
Nous visons un renouvellement de la flotte d'ici fin 26 avec pour projet de switcher entre les A330 et les 350. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt sur cette phase et ces étapes. D'abord, celui d'ouvrir la ligne Paris et demain, de pouvoir disposer d'avions adaptés pour le faire.
Nouvelle destination, donc nouvelle clientèle?
Alors la clientèle, bien évidemment, a été lourdement impactée. Mais bien évidemment, aujourd'hui, aller jusqu'à Paris, c'est aussi pour nous de pouvoir se développer, d'aller chercher de nouveaux clients avec l'expérience et le niveau de service Air Calin.
Air Calin qui va donc commercialiser cette nouvelle ligne dès lundi prochain, c'est-à-dire le 16 septembre. Parmi les autres projets, Georges Sélefen évoquait ce matin celui d'un rapprochement et non pas d'une fusion avec Air Calin, notamment dans le cas de la desserte du Vanuatu. Autant de mesures et de projets qui doivent, selon le PDG de la compagnie, permettre d'envisager un retour à la croissance autour du second semestre 2025.
Les prix se stabilisent en Nouvelle-Calédonie. En août, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% après avoir baissé de 0,6% en juillet. En ce qui concerne l'alimentation, la hausse est de 0,6%. Les détails avec vous, Léo Fichou.
Plus 0,6% effectivement au mois d'août et plus 5,7% sur les 12 derniers mois. Dans les détails, au mois d'août, toutes les classes alimentaires sont concernées par cette hausse, sauf les prix du poisson, moins 3,7%, et des fruits, moins 0,3%. Ce sont les prix des boissons alcoolisées qui augmentent le plus, avec une hausse de 5,8%, plus 10,9% pour les bières, plus 5,2% pour les alcools forts, et plus 1,1% pour les vins, cidre et champagne. Une hausse qui intervient intervient après plusieurs mois d'interdiction de la vente d'alcool sur le territoire. On note également une hausse des prix de la viande, plus 0,4%, des produits laitiers, plus 0,7%, et des huiles et graisses, plus 1,2%. Dans les autres secteurs, les prix des services repartent légèrement à la hausse, plus 0,2%, après une légère baisse en juillet. Du côté des produits manufacturés, la baisse se poursuit avec moins 0,4%. La stabilité globale des prix de l'énergie au mois d'août est marquée par l'augmentation du gasoil, plus 0,6%, du gaz, plus 5,6%, et du charbon, 7,2% d'une part, et également la diminution du prix de l'essence, moins 0,9% de l'autre.
La décision modificative numéro 2 du budget de la ville du Mont-d'Or a été adoptée ce matin à l'unanimité. Son objectif, intégrer l'aide de l'État pour les barges d'un montant de 107 millions, ce qui représente en moyenne 25 barges par mois. L'enveloppe couvre la part financée par la mairie qui est de 60% du coût total. Si les élus continuent de demander la sécurisation de la RP1 et le retour à la libre circulation, ils prévoient budgétairement le fonctionnement des barges jusqu'à la fin de l'année, et dit Le Courrier, le maire du Mont-d'Or.
Dès le début, la ville a pris en charge ce service, qui logiquement est pris par le port autonome, par la Nouvelle-Calédonie, donc qui n'avait pas d'argent. Donc la ville s'est substituée et a pris en charge depuis le mois de mai ce service. Aujourd'hui, on a demandé à l'État de nous aider. Donc l'État était d'accord, non seulement pour aider la province sud sur les navettes, et aider également la ville. Et ça a été le cas aujourd'hui. On a mis en recette et en dépense cette somme de 107 millions. Nous, on a déjà la recette qui est arrivée jusqu'au mois d'août. Et on a mis la ville a inscrit, parce qu'on ne souhaite pas voir disparaître ses barges, bien sûr. Donc on a inscrit jusqu'au mois de décembre la dépense.
Le budget sera modifié quand la situation s'améliorera. La séance s'est poursuivie avec l'attribution de subventions à des associations, des subventions en baisse, mais qui restent essentielles pour le maire, et dit Le Courrier, afin de maintenir les activités et le tissu associatif sur la commune.
Malgré un budget très 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 restreint, on a continué à subventionner toutes nos associations, alors avec des montants plus ou moins coupés, on va dire, mais néanmoins, toutes les associations sont aidées. En matière de sécurité, donc j'allais dire quasiment à 100%, je relève la subvention à l'aide aux victimes, la DAVI, cette association qui travaille énormément sur le Mont-d'Or. L'aide à la SPANC et tout ce qui est l'aide à la stérilisation et puis aux animaux abandonnés, parce qu'en malheureusement on voit que sur la Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'animaux ont été abandonnés. Une aide également à l'association La Cravache, du Mont-d'Or qui, depuis quelques mois, a des problèmes de structure, des problèmes financiers. Donc, pour éviter que les chevaux soient en situation extrême, on a mis cette subvention. En fin d'année, d'ici un ou deux mois, on mettra en place quand même une grande manifestation sur le Mont-d'Or où les associations seront à l'honneur et où elles pourront monter des stands et pouvoir ainsi avoir un certain nombre de recettes qui les aideront.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand. Et puis lors des échanges de ce matin, il a aussi été question de l'organisation du wharf du Vallon d'Or. Certains aménagements sur la zone devront être effectués et les réflexions ont débuté concernant le parking ou encore le marché qui s'est monté non loin de l'embarcadère.
Vous écoutez Info Soir, il est 18h10.
On l'apprenait hier soir, le dernier vétéran calédonien des forces navales françaises libres de la Seconde Guerre mondiale s'est éteint hier. Jacques Lucien avait 100 ans, Gilles Ménage.
Jacques Lucien était né en effet le 4 mai 1924 à Nouméa et il avait seulement 18 ans lorsqu'il s'est engagé dans les FNFL, les forces navales de la France libre. C'était le 1er février 1942. À l'époque, le jeune menuisier qui vit chez ses parents veut absolument se battre pour son pays depuis 2 ans déjà. Et il lui faudra beaucoup de ténacité pour y parvenir, nous rappelle Michel Mourguet, délégué général de la France libre en Nouvelle-Calédonie.
Le problème, c'est qu'au début de la guerre, en 1941, le 5 mai entre autres, le nombre d'élus pouvant partir au front est très réduit. Et il s'est cassé le nez à plusieurs reprises au bureau de la marine qui ne comportait qu'un officier de réserve. Ce n'est que lorsque l'amiral d'Argentlieu arrive en novembre 1941 et qu'il crée l'unité marine Nouméa que Jacques est enfin accepté. Là, il embarque sur la vedette portuaire La Frégate, qui est un ancien remorqueur de mines. La Frégate effectue entre autres le ravitaillement des postes de guet chaque mois, dont celui de l'île des Pins. Jacques y est breveté matelot gabier le 23 juillet 1943. Il embarque sur l'aviseau Le Chevreuil, mais juste pour une mission temporaire. Au retour, on lui indique qu'il doit débarquer et être affecté à terre au dépôt de la marine. Ça lui plaît pas du tout. Et il indique qu'il s'est engagé pour se battre. Après avoir quelque peu bataillé, il est accepté en affectation sur le Chevreuil à compter du 1er juillet 1943.
Jacques Lucien va donc servir jusqu'à la fin de la guerre sur cet aviso, le Chevreuil, notamment dans l'Atlantique, où il va escorter des convois de plusieurs dizaines de navires marchands vers Gibraltar ou Casablanca. Après la guerre, son engagement lui vaut la croix du combattant volontaire et la médaille du service volontaire de la France libre. En 1945, d'ailleurs, cette décoration est accompagnée d'un message un peu plus personnel.
Répondant à l'appel de la France en péril de mort, vous avez rallié les forces françaises libres. Vous avez été de l'équipe volontaire des bons compagnons qui ont maintenu leur pays dans la guerre et dans l'honneur. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, y ont permis de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au nom de la France. Le 1er septembre 1945, Charles de Gaulle.
Menuisier de profession, Jacques Lucien a travaillé longtemps pour Bois du Sud. Il possédait la double nationalité franco-australienne. Et à l'occasion de son 100e anniversaire, le 4 mai dernier, il avait d'ailleurs reçu une carte de félicitations manuscrite du roi Charles III d'Angleterre et une autre du Premier ministre australien. Les obsèques de Jacques Lucien seront célébrées le lundi 16 septembre à partir de 11h au centre funéraire de Nouméa.
L'heure de voir de quoi sera fait votre week-end. Une actualité festive dense avec pour commencer demain à Ducos le grand marché Broussard organisé par la Chambre d'agriculture et de la pêche, Charlotte Coulson.
Un marché de grande envergure qui se déroulera de 7h à 16h sous la halle du marché de Ducos. Animation phare de la brousse et stand de produits locaux seront au rendez-vous. Pour Jean-Christophe Niotou, le président de CAPNC, c'est l'aboutissement d'une stratégie qui remet sur le devant de la scène les marchés de producteurs.
Pour nous, le vrai lancement, si vous voulez, de cette stratégie, c'est de mettre en avant notre capacité à offrir des bons produits locaux aux consommateurs là où ils habitent, en l'occurrence dans le Grand Nouméa, avec ce marché à Ducos. Donc un très très grand marché avec une centaine d'exposants, c'est-à-dire le double de ce qu'on a d'habitude, des animations rurales hein, comme le dépeçage de cerf, le claquage de fouet et d'autres activités, des stands de restauration, donc quelque chose qui sera vraiment intéressant.
Le Grand Marché Broussard, c'est demain de 7h à 16h sous la halle du marché de Ducos. Notez qu'une inauguration se déroulera à 8h.
Pour les amateurs de produits calédoniens, c'est à la gare maritime de Betticho qu'il faudra se rendre demain.
Des producteurs de marais proposent aux habitants de la Grande Terre de réserver des paniers en ligne remplis de produits frais venant de Négoné. Il sera également possible pour les gens n'ayant pas réservé de directement composer leur panier sur place demain matin.
À Nouméa, toujours, la ville propose demain une visite guidée du musée de la Seconde Guerre mondiale.
L'occasion de découvrir ou d'approfondir vos connaissances sur cette période en Nouvelle-Calédonie. L'entrée est gratuite et la visite se déroulera de 10h30 à midi. Un second rendez-vous sera proposé le 28 septembre.
Du côté du Mont-d'Or-Sud, la banque alimentaire se déplace à Ploum et propose un pique-nique partagé.
Cette partie du Mont-d'Or reste malheureusement pour le moment inaccessible par voie terrestre, mais cela ne veut pas dire que toutes les activités doivent être annulées. Ce repas gratuit offert par la banque se déroulera demain de 10h30 à 14h30 au parc Bloch de Ploum.
D'un bien maintenant, la microfolie métalonnant les cultures urbaines sous toutes leurs formes à l'occasion, du freestyle extra.
Du rap, des graphes, du slam et des projections de courts-métrages sont au programme de cette journée dédiée à ce mouvement culturel. Des animations 100% gratuites qui se dérouleront de 10h à 16h à la médiathèque de la commune.
Et puis à Bouraille se déroulera demain toujours une plantation d'arbres à Téné pour restaurer la ripisylve, c'est-à-dire les formations boisées au bord des cours d'eau, Charlotte.
Oui, 1200 arbres seront mis en terre demain dès 8h30 sur la propriété de l'élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche Rudy Roy. Ce chantier permettra de tester plusieurs types de paillages qui bénéficieront aux futures plantations.
Et puis dans un tout autre registre, la CCI organise demain une journée portes ouvertes dans ses locaux rue de Verdun à Nouméa.
Les Calédoniens pourront venir rencontrer les apprenants du centre de formation par alternance de la CCI. Ça se passe demain à partir de 9h. Les visiteurs pourront en apprendre plus sur les différentes formations proposées pour la rentrée 2025. 12 ateliers seront proposés tout au long de la journée pour définir au mieux votre Future Orientation, un événement organisé par les apprentis du BTS NDRC, dont Rayani Rakaman fait partie.
Alors de base, on participe au salon donc, des études supérieures qui se fait à l'université de Nouville, ou à la semaine de l'alternance. Et là, donc, suite aux exactions, il n'y a plus du tout ces événements-là. Donc on a décidé de créer la journée porte ouverte et de l'animer pour mettre en avant l'alternance et le CFA de la CCI. Donc du coup, les élèves de BTS NDRC de deuxième année, ils ont créé toutes les animations et tous les ateliers qu'on fera donc pour demain. Pour les personnes qu'on vise, que ce soit les lycéens, donc les étudiants qui vont continuer leurs études pour l'année prochaine, les personnes qui sont en reconversion ou celles qui souhaitent monter en compétences en passant un diplôme de niveau BTS.
Et les inscriptions à la rentrée 2025 de la CCI Alternance sont ouvertes jusqu'au 4 octobre.
Et on n'oublie pas ce dimanche la SPANC qui organise sa brocante. C'est de 7h à 11h dans ses locaux de Coutioux.
Malgré sa récente subvention attribuée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour son fonctionnement, la SPANC a toujours besoin de dons pour subvenir aux besoins des animaux. Cette brocante sera donc l'occasion de faire une bonne action tout en repartant avec de nouveaux objets ou de nouveaux vêtements.
Merci Charlotte. Il est 18h17. Nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer le reste de l'actualité avec la visite du roi Charles III au Samoa pour le sommet du Commonwealth et puis notre programme des sports. À tout de suite.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité dans la région, une visite royale le mois prochain. Le roi Charles III se rendra en effet au Samoa pour le sommet annuel des États membres du Commonwealth. Il fera cela, avant cela, pardon, un séjour en Australie. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le roi Charles III et son épouse seront en Australie du 18 au 23 octobre prochain. La dernière visite d'un monarque britannique, la reine Elizabeth, remontait à 2011. Le couple royal sera l'invité d'un dîner officiel que le Premier ministre australien Anthony Albanese organisera à Canberra, où le roi Charles déposera également une gerbe au mémorial militaire. Le monarque et son épouse se rendront ensuite dans les Montagnes Bleues et assisteront à un barbecue communautaire à Sydney, où des réunions sont aussi prévues avec des aborigènes et des victimes de violences familiales. Le couple royal s'envolera ensuite pour Apia, capitale du Samoa, où Charles III présidera à la cérémonie d'ouverture de la 28e réunion des chefs de gouvernement des 56 États membres du Commonwealth. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Les sports, et on démarre cet agenda des sports du week-end avec la quatrième journée du championnat de France de football, Léo Fichou.
Et oui, demain matin à 5h45 heure de Nouméa, Saint-Etienne, qui n'a toujours pas inscrit le moindre but et qui n'a non plus pas ouvert son compteur point, accueille Lille dans la nuit de demain à dimanche. Suivront Marseille, Nice, Monaco, Auxerre et Paris-Brest. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Canaries d'Antoine Comboiré, qui sont deuxièmes au classement, recevront Reims. Montpellier se déplacera sur la pelouse de Rennes. Strasbourg accueille Angers et Toulouse recevra le Havre. Enfin, lundi matin, 5h45, toujours heure de Nouméa, Lyon jouera contre Lens et tentera d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée.
Du football toujours avec de belles rencontres dans les autres championnats européens.
Oui, en Angleterre d'abord, on aura le droit dans la nuit de dimanche à lundi au derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. En Espagne, le Barça, seule équipe avec 4 victoires après 4 journées, affronte Gérone. Et puis, en Allemagne, le leader surprise, Heidenheim, se déplace sur la pelouse de Dortmund demain matin à 5h30.
Il y a du rugby ce week-end en métropole avec la deuxième journée du top 14.
Oui, ça démarre demain soir. Toulon est opposé au Castres Olympique et le Stade français accueille le promu Vanté. Dans la nuit de demain à dimanche, Clermont se déplace sur la pelouse du Racing 92. La section paloise reçoit l'Aviron Bayonnais et l'USAP affronte Montpellier. Les Catalans qui ne peuvent pas jouer à domicile, la pelouse étant en travaux, le match se jouera à Béziers. Enfin, dimanche matin à 6h05, heure de Nouméa, deux matchs seront au programme, Lyon-Bordeaux-Bègles et Stade Toulousain Stade Rochelet.
Et on passe maintenant au sport mécanique avec de la F1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1, Léo, avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end.
Charles Leclerc et Ferrari vont-ils confirmer après leur victoire à Monza lors du dernier Grand Prix ? Max Verstappen, de son côté, reviendra-t-il enfin à son meilleur niveau ? Ce qui est sûr, c'est que le Grand Prix d'Azerbaïdjan est très souvent le théâtre de surprises, de renversements et de nombreux abandons. Le Français Pierre Gasly, lui, apprécie le tracé de Bakou.
Un tracé que j'apprécie, ouais, forcément. J'ai des bons souvenirs ici avec la troisième place en 2021, voilà. Donc c'est un tracé qui est exigeant, c'est un tracé qui est compliqué, surtout, voilà, c'est un circuit en ville, donc on joue avec les rails, avec les murs, et essayer de repousser un peu les limites sans arrêt, donc c'est un beau challenge. L'année dernière, ça a été compliqué pour nous en tant qu'équipe, donc on espère que ça sera un meilleur week-end pour nous cette année.
Le départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou sera donné dimanche soir à 22h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Du tennis avec la Coupe Davis, l'équipe de France doit gagner ses deux dernières rencontres si elle veut se qualifier pour le Final Eight.
Et oui, l'Australie s'est imposée cette nuit sur la République tchèque dans le groupe de la France. Deuxième victoire en deux rencontres pour les Australiens après leur victoire contre les Bleus mercredi. Les Bleus justement qui n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier. Et ça passe d'abord par un exploit la nuit prochaine contre l'Espagne de Carlos Alcaraz. Ils joueront également demain, dans la nuit de demain à dimanche, face à la République tchèque. Les Bleus qui doivent enchaîner deux victoires.
Et on passe du tennis au padel avec les championnats de France à Strasbourg qui démarrent ce soir pour les Calédoniens.
Nicolas Ngodrella et Lorenz Pezzelé sont sur la piste depuis 18h. Ils affrontent Maxime Forcin et Dylan Guichard, tête de série numéro 4 du tournoi en 16e de finale. Les deux Calédoniens qui ont fait passer un message hier à tous ceux qui les soutiennent ici sur le territoire.
On se rend à Strasbourg pour le championnat de France. Et on tenait à remercier tous les partenaires de nous soutenir dans ce déplacement en France.
Oui, je suis solidaire de mon ami Lorenz. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage. Et là, on vient s'entraîner, là, on est chaud, là, on est à Paris. Et là, on descend demain avec deux entraînements, on a hâte de rejoindre les filles. Et on espère bien vous représenter et que vous soyez fiers de nous. Thank you.
Merci à tous.
Les deux Calédoniens qui faisaient donc passer un message hier à tous ceux qui les soutiennent sur le territoire. Ils sont en train de jouer leur 16e de finale. Ensuite, ce sera au tour des féminines, Lindsay Moto Nekirie et Célia Pérez qui rentreront en lice. Elles seront opposées vers 19h15-19h30 à Amélie de Trivière et Mélissa Martin.
Et du football ce week-end avec la troisième et dernière journée du championnat féminin d'Océanie des moins de 16 ans.
Après deux journées, les jeunes Cagous sont troisième à égalité de points avec les îles Salomon, deuxième, et ont une moins bonne différence de but, moins 7 contre plus 1 pour les îles Salomon. Dimanche à 14h, donc les Calédoniennes devront battre Tahiti en espérant une large victoire un peu plus tôt de la Nouvelle-Zélande face à ces mêmes Salomon. Pour rappel, seules les deux premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales du championnat d'Océanie.
Le sport sur le territoire avec d'abord du football ce week-end, Léo.
Et oui, d'abord le trophée du Grand Nouméa qui continue demain au Parc des Sports de Koutio. Les deux premières rencontres de la cinquième journée. L'OSI affrontera Dumbéa à 14h et puis à 15h45, Gaïcha jouera contre l'AS Mondor. L'AS Mondor qui pourrait rejoindre Horizon Sport et Magenta en tête du classement avec 3 victoires. En 3 matchs, l'AS Magenta justement qui jouera ce week-end contre la sélection A de Nouvelle-Calédonie. Un second match de préparation pour la sélection en vue des qualifications à la Coupe du Monde. Le match se jouera à huis clos au stade Noumadélé dimanche à 15h. Et puis il y aura un autre match amical prévu ce week-end. Demain, c'est la sélection U17 contre la sélection U20. Coup d'envoi de la rencontre à 10h30 au centre technique de Païta.
On continue notre tour des sports collectifs avec du basket à Nouméa et à Bouraille demain et dimanche.
La première division du championnat senior territorial. Samedi à 18h, l'équipe 1 de Rivière-Salée affronte Pointe-Bout sur le terrain de Lens-Vata. Dimanche, il y aura 3 rencontres, mais ce coup-ci, ce sera à Bouraille. 3 matchs à 10h, à 12h et à 14h. Et puis en basket 3 contre 3, ça concerne la division 2. Ça se passe demain matin dès 9h au hall de Dumbéa Centre.
Et on termine ce programme des sports du week-end avec de la voile, 2 événements sur le territoire.
Le premier, le Cercle Nautique Calédonien organise un challenge offshore et inshore demain et dimanche. 13 bateaux prendront le large pour une échappée sportive dans le Grand Sud. Le départ sera donné à 10h30 et sera visible depuis le Rocher à la Voile. Les participants auront le choix entre une régate inshore qui se déroulera dans le lagon et une aventure offshore au-delà de la barrière de corail. Et puis, second événement, toujours sur l'eau, le Catamaran Club de Nouméa organise la 4e étape du Trophée des Eaux du Mont d'Or. Ça se passe aussi demain et dimanche, début de la régate à 13h.
Merci Léo Fichou. 18h26, on passe maintenant à la météo.
la météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages resteront majoritaires. Des averses s'attarderont en soirée sur le nord-ouest. D'autres circuleront des loyautés à la côte est. Elles deviendront localement fortes sur la côte est en fin de nuit. L'alizée de secteur est faiblira progressivement entre 5 et 10 nœuds. Sur la côte ouest et le sud de la Grande Terre en fin de nuit deviendra variable faible. Les températures minimales resteront stables au-dessus des normales de saison. Elles s'échelonneront entre 16 et 22 degrés. Demain matin, les nuages domineront le souvent sur le nord de la Grande Terre, la côte est est marée. Ailleurs, les éclaircies reprendront l'avantage après un début de journée souvent nuageux. Des averses persisteront aux loyautés, l'île des Pins et la côte est. Sur le nord, l'alizée de sud-est reprendra entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, le vent sera faible. Sur le sud-ouest, en fin de matinée, il s'orientera ouest à sud-ouest de 5 à 10 nœuds, Isabelle.